95e jour. Les terreurs de la semaine écoulée se sont largement apaisées. Je m'aperçois que même la peur peut s'estomper et devenir banale après quelques jours de retour au calme. Avec la machette, j'ai coupé quelques arbustes pour m'en faire un abri contre le vent. J'ai recouvert le toit et l'un des côtés de tissu gamma, après avoir calfaté tant bien que mal les rondins avec de la boue. L'abri est adossé à un gros rocher. J'ai ouvert quelques-unes de mes caisses de matériel pour y prélever certains outils, mais j'ai bien peur qu'ils ne me servent pas à grand-chose dans la situation où je me trouve. J'ai commencé à utiliser les ressources du terrain pour agrémenter un peu mes réserves de nourriture déshydratée qui diminuent de manière inquiétante. D'après le dérisoire programme établi sur PACEM il y a si longtemps, je devrais être en ce moment, depuis plusieurs semaines, parmi les bicuras, troquant de menus marchandises contre de la nourriture locale. Mais tant pis. Outre la racine de chalme, insipide mais nutritive et facile à cuire, j'ai découvert une demi-douzaine de variétés de baies et de fruits que mon père Soc a jugé comestibles. Jusqu'ici, mon estomac s'est déclaré d'accord, sauf dans un cas, où j'ai dû passer presque toute la nuit accroupi au bord du ravin le plus proche. J'arpente le territoire qui entoure mon campement avec autant d'impatience que ces pélopes en cage auxquelles les petits padishas d'Armagast attachent tant de prix. 1 kilomètre au sud et 4 à l'ouest, la forêt des flammes est en pleine vigueur. La fumée rivalise avec les volutes de brume perpétuellement en mouvement pour cacher le ciel. Seules les fourrés d'abeste impénétrables, les étendues rocheuses du sommet du plateau, comme celle où je me trouve, ou encore les crêtes qui forment des espèces de vertèbres dans la carapace du nord-est sont épargnées par les Teslas. Au nord, le plateau s'évase et la végétation devient plus dense aux abords de la faille, sur une 15aine de kilomètres, jusqu'à l'endroit où elle est bloquée par une crevasse dont la profondeur représente à peu près le tiers et la largeur la moitié de celle de la faille elle-même. Hier, j'ai poussé jusqu'au point situé le plus au nord et j'ai contemplé, empreint de frustration, le territoire qui s'étend au-delà du précipice. Un autre jour, j'essaierai de le contourner par l'est, dans l'espoir de trouver un passage. Cependant, à en juger par les phénix que j'aperçois de l'autre côté et la fumée qui monte à l'horizon du nord-ouest, je ne devrais y trouver que des ravins couverts de chalmes et des steppes où règne la forêt des flammes, comme l'indiquent approximativement les relevés topographiques orbitaux dont je dispose. Ce soir, tandis que le vent entamait son chant funèbre, je me suis rendu sur la tombe de Tuk. À genoux, j'ai voulu prier, mais rien n'est venu. Rien n'est venu, Édouard. Je suis aussi vide que ces faux sarcophages que nous avons autrefois exhumés ensemble par dizaines dans les sables stériles du désert de Tarum Belwadi. L'agnostique zen dirait que ce vide est un bon signe, qu'il présage l'ouverture spirituelle vers de nouveaux niveaux de conscience, de nouvelles intuitions, de nouvelles expériences. Merde. Le vide que je ressens n'est rien d'autre que du vide. 96e jour. J'ai trouvé les bicuras. Disons plutôt qu'ils m'ont trouvé. J'écris rapidement ces mots avant qu'ils ne viennent me tirer du sommeil où ils me croient plongé. J'étais en train d'effectuer quelques relevés cartographiques à 4 kilomètres à peine au nord du camp, lorsque la brume s'est levée à la faveur du réchauffement atmosphérique de la mi-journée, me permettant d'apercevoir quelques terrasses de mon côté de la faille, qui étaient demeurées cachées jusqu'alors. Je pris mes jumelles électroniques pour les examiner. Il s'agissait d'une série de gradins, corniches, protubérances, ressauts et redans qui s'avançaient bien au-delà du surplomb. Mais le plus extraordinaire est que je m'aperçus bientôt que j'étais en train d'observer des habitations humaines. Il y avait là une douzaine de huttes primitives, des cabanes faites de blocs de pierre et de branches de chalme tassées et calfatées avec de la mousse. Leur origine humaine était indiscutable. Je demeurai là un bon moment, les jumelles à la main, essayant de décider si je devais descendre à la rencontre des gens qui avaient édifié ces huttes ou battre précipitamment en retraite avant qu'ils ne me voient. Mais je ressentis à ce moment-là ce picotement glacé au niveau de la nuque, qui permet d'affirmer avec une quasi-certitude que l'on n'est plus tout seul. Abaissant mes jumelles, je me retournai lentement. Ils étaient là. Les bicuras, au moins une trentaine, formaient un large demi-cercle qui ne me laissait aucune retraite possible vers la forêt. J'ignore à quoi je m'étais attendu au juste. Des sauvages nus, peut-être, avec une expression féroce et des colliers de dents. Ou peut-être le genre d'ermite barbu et chevelu que les voyageurs rencontrent parfois dans les montagnes de Moshé sur Hébron. Quoi qu'il en soit, la réalité des bicuras ne correspondait à rien de tout cela. Les gens qui s'étaient silencieusement approchés si près de moi étaient de petite taille. Pas un ne dépassait de mon épaule. Ils étaient vêtus de robes sombres de facture grossière qui les couvraient de la nuque aux pieds. Lorsqu'ils se déplaçaient, ce qui était le cas pour certains d'entre eux en ce moment, ils semblaient glisser par terre comme des spectres. De loin, ils me faisaient tout à fait penser à un groupe de jésuites en miniature dans quelque lointaine annexe du Nouveau Vatican. Je faillis éclater de rire, mais je fus arrêté à temps par la pensée qu'une telle réaction pourrait être interprétée comme un signe de panique naissante. Les bicuras, cependant, ne manifestaient aucune hostilité qui eût pu causer cette panique. Ils ne portaient pas d'armes, et leurs petites mains étaient vides. Aussi vides que leur expression. Leur physionomie est difficile à décrire succinctement. Ils sont chauves pour commencer. Tous, sans exception. L'absence de pilosité, de même que la robe aux plis amples qui descend jusqu'à terre, ne permet pas de distinguer aisément les hommes des femmes. Le groupe qui me faisait face, une cinquantaine d'individus à présent, semblait constitué uniquement d'adultes à peu près du même âge, entre 40 et 50 années standard. Ils avaient tous le visage lisse et le teint légèrement jaune, caractéristique que je supposais liée à l'ingestion, sur des générations, de minéraux en traces présents dans le chalme et les autres plantes locales. J'aurais été tenté de décrire le visage rond des bicuras comme celui d'un chérubin, mais il suffit de les examiner d'un peu plus près pour que l'impression de douceur angélique disparaisse et fasse place à une interprétation toute différente, celle d'une placidité confinant à l'idiotie pure et simple. En tant que missionnaire, j'ai passé suffisamment de temps sur des planètes arriérées pour être en mesure d'observer à loisir les effets de l'ancienne affection génétique appelée tantôt mongolisme, tantôt syndrome de Down, ou encore séquelles du voyage spatial sur plusieurs générations. Telle fut donc la première impression générale que me donna la soixantaine de petites silhouettes en robe sombre maintenant déployées autour de moi, avec le même sourire silencieux d'enfant chauve et mentalement retardé. Je ne manquais pas de me dire que c'étaient sans doute les mêmes enfants souriants qui avait tranché la gorge de Tuc pendant son sommeil et l'avait laissé mourir comme un porc saigné. Le bicura le plus proche de moi s'avança, s'immobilisa à 5 pas de moi et émit une série de sons monocordes.
« Une seconde !»
lui dis-je en sortant mon persoc pour le régler sur le mode traduction.
« Payetet otamena lot kresfemket ?»
me demanda le petit homme qui me faisait face. Je mis mes écouteurs juste à temps pour entendre la traduction proposée par le persoc. Il n'y eut même pas de temps d'attente. Ce langage d'apparence exotique n'était que la déformation d'un anglais archaïque utilisé à bord des vaisseaux d'ensemencement et relativement proche du dialecte des plantations.
« Tu es l'homme qui appartient à la croix cruciforme ?»
interpréta le persoc en me laissant le choix entre les deux substantifs finaux.
« Oui, » répondis-je.
J'étais certain à présent que c'était eux qui m'avaient touché pendant mon sommeil la nuit où Tuc avait été assassiné, ce qui signifiait qu'ils étaient probablement ses meurtriers. J'attendis. Le mazer de chasse était dans mon paquetage, qui se trouvait lui-même adossé à un petit chalme à moins de 10 pas de là. Une demi-douzaine de bicuras se tenaient entre l'arme et moi.
Et à quoi bon ?
Je savais très bien que je ne me résoudrais jamais à utiliser un tel objet contre des êtres humains, même s'ils avaient assassiné mon guide et se préparaient à me tuer aussi. Je fermai les yeux, récitant un bref acte de contrition. Lorsque je les rouvris, le groupe des bicuras avait encore grossi, mais il s'était figé, comme si un quorum avait été atteint ou comme si une décision avait été prise. «
Oui, » répétai-je dans le silence.
Je suis celui qui porte la croix. » J'entendis le petit haut-parleur du père Soc qui prononçait le dernier mot, « Cresphem ». Les bicuras hochèrent la tête à l'unisson et, comme s'ils avaient derrière eux une longue pratique de garçon de messe, exécutèrent une génuflexion parfaite accompagnée de froissements de robe. J'ouvris la bouche pour parler, mais la refermai aussitôt en m'apercevant que je n'avais rien à dire. Les bicuras se relevèrent. Une brise souffla sur les chalmes, faisant entendre au-dessus de nous un crépitement sec de début d'automne. Le bicura le plus proche de moi s'avança, me saisit l'avant-bras de ses doigts courts et glacés, et prononça une brève phrase que mon père Soc traduisit par « Viens, il est temps d'aller dans nos maisons pour dormir ». C'était le milieu de l'après-midi. Je me demandais si le père Soc avait traduit correctement le mot « dormir » ou si c'était, peut-être, une expression idiomatique ou une métaphore pour « mourir ». Je hochai cependant la tête et les suivis vers le village au bord du précipice. Je suis à présent dans une hutte et j'attends. Il y a d'étranges froissements à l'extérieur. Quelqu'un d'autre que moi ne dort pas. Je ne peux rien faire d'autre qu'attendre. 97e jour. Les bicuras se donnent le nom de 70. J'ai passé ces dernières 26 heures à leur parler, à les observer et à prendre des notes pendant leur sieste quotidienne de 2 heures au milieu de l'après-midi. Je m'efforce, de manière générale, d'accumuler le plus possible de notes avant qu'ils ne leur prennent la fantaisie de me trancher la gorge. Mais j'ai acquis maintenant la conviction qu'ils ne me feront aucun mal. Je leur ai parlé hier après la sieste. Parfois, ils ne répondent pas aux questions. Et quand ils répondent, cela se résume en général à des grognements indistincts ou contradictoires tels que des enfants retardés peuvent en émettre. À part les quelques mots qu'ils ont prononcés lors de notre première rencontre, aucun d'eux ne m'a plus posé aucune question. J'ai essayé de leur tirer des renseignements en procédant lentement, prudemment, avec le calme professionnel d'un ethnologue aguerri. Je leur ai posé des questions aussi simples, aussi factuelles que possible, pour être sûr que le père Soc ne pourrait rien déformer. Mais leurs réponses cumulées m'ont laissé aussi ignorant à la fin que je l'étais hier. Là, de corps et d'esprit, j'ai fini par abandonner toute subtilité professionnelle pour leur demander brutalement « Avez-vous tué mon compagnon ?» Mes 3 interlocuteurs n'ont pas levé la tête du grossier métier à tisser sur lequel ils s'activaient. « Oui, » m'a répondu celui que j'ai surnommé Alpha parce qu'il a été le premier à s'avancer vers moi dans la forêt. « Nous avons tranché la gorge de ton compagnon avec des pierres aiguisées et nous l'avons maintenu pendant qu'il se débattait. Il est mort de la vraie mort.
Pourquoi ? » ai-je demandé au bout d'un moment de silence, d'une voix aussi desséchée qu'une vieille enveloppe d'épis de maïs qui tombe en poussière.
Pourquoi il est mort de la vraie mort ?
A demandé Alpha, la tête toujours penchée sur son ouvrage.
C'est parce que tout son sang est parti et il a cessé de respirer.
Non. Pourquoi vous l'avez tué ?
Alpha ne répondit pas, mais Betty, qui pourrait être de sexe féminin et qui pourrait être sa compagne, leva la tête de son métier à tisser en me répondant simplement
« Pour le faire mourir. »
« Mais pourquoi ?»
Les réponses invariablement tournaient en rond et ne m'éclairaient pas d'un iota. Tout ce que je pus obtenir comme renseignement, après avoir posé d'innombrables questions, fut que Tuc était mort parce qu'on l'avait tué et qu'on l'avait tué pour qu'il meure. « Quelle différence faites-vous entre la mort et la vraie mort ?» demandai-je finalement, sans faire confiance à ce stade, à mon père Soc ni à ma patience. Le 3e bicura, Del, grogna une réponse que le père Soc traduisit ainsi.
« Ton compagnon est mort de la vraie mort, pas toi. »
Poussé finalement par une frustration beaucoup trop proche de la fureur, je lançai
« Pourquoi pas moi ? Pourquoi ne m'avez-vous pas tué ?»
Ils interrompirent tous les 3 leur ouvrage machinal et me regardèrent.
« Tu ne peux pas être tué parce que tu ne peux pas mourir, » me dit Alpha. « Tu ne peux pas mourir parce que tu appartiens au cruciforme et que tu suis la voie de la croix.
Je n'avais pas la moindre idée de la manière dont cette damnée machine s'y prenait pour traduire une fois croix et une fois cruciforme. Parce que tu appartiens au cruciforme. Un frisson glacé me parcourut, aussitôt suivi d'une irrésistible envie de rire. Étais-je tombé sur la tribu perdue des holos d'aventure de pacotille, qui vénère le dieu tombé du ciel jusqu'au jour où ce malheureux se coupe en se rasant et où la vue du sang, révélant sa nature mortelle, les incite à offrir leur idole déchue en sacrifice à des divinités plus classiques? L'idée aurait été plus amusante si le visage de Tuc, vidé de son sang et orné d'une collerette de chair meurtrie et retroussée, n'avait pas été si présent dans ma mémoire. Leur réaction devant la croix suggérait à coup sûr que j'étais en présence d'un groupe de survivants d'une ancienne colonie chrétienne. Des catholiques ? Mais les données fournies par le Père Soc étaient formelles sur l'identité des 70 colons dont le vaisseau d'ensemencement s'était écrasé sur ce plateau 400 ans auparavant. Ils étaient tous marxistes de la tendance néo-kerwin, et ils devaient par conséquent être indifférents, voire hostiles, à toutes les vieilles religions de la Terre. Il eût été préférable pour moi que j'abandonne ce sujet trop dangereux, mais mon stupide besoin de savoir me poussa à demander « Adorez-vous Jésus ?» Leur expression vide rendait superflue toute réponse de leur part. « Et le Christ, insistai-je, Jésus-Christ, les chrétiens, l'Église catholique ?» Ils ne manifestèrent pas plus d'intérêt. « La Vierge Marie, Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Théard ?» Le Père Soc produisit des bruits divers, mais ces noms ne semblaient avoir aucune signification pour eux. « Vous adorez la croix ?» demandai-je en désespoir de cause pour rétablir le contact. Ils se tournèrent tous les trois vers moi.
« Nous appartenons au cruciforme, » déclara Alpha.
Je hochai lentement la tête. Je n'y comprenais toujours rien. Ce soir, je me suis endormi juste avant le coucher du soleil. Le chant d'orgue de la faille m'a réveillé peu après. Le vent est beaucoup plus sonore ici sur les gradins du village. Même les huttes semblent participer au concert du vent modulé par le moindre interstice entre deux pierres, le moindre branchage du toit et les moindres trous d'évacuation grossiers de la fumée. Il y avait quelque chose d'anormal. Il me fallut une ou deux minutes pour me réveiller pleinement et me rendre compte que le village était désert. Les huttes étaient abandonnées. Je m'assis sur un rocher froid, en me demandant si ce n'était pas ma présence qui avait provoqué un exode massif. La musique du vent était terminée. Les météores commençaient leur spectacle nocturne à travers les déchirures entre les nuages, lorsque j'entendis du bruit derrière moi et me retournai pour voir mes 70 bicuras qui se tenaient sans bruit derrière moi. Ils me dépassèrent sans dire un mot pour regagner leur hutte. Aucune lumière ne s'alluma. Je les imaginais accroupis dans le noir, le regard inerte. Je m'attardai quelques instants dehors, ne voulant pas regagner tout de suite ma propre hutte. Au bout d'un moment, je m'avançai jusqu'à la limite de la corniche herbeuse et me penchai vers l'abîme. Des plantes grimpantes et des racines s'accrochaient à la paroi rocheuse, mais elles semblaient prendre fin au bout de quelques mètres. Aucune liane n'avait l'air assez longue pour descendre jusqu'au fleuve qui coulait 2000 mètres plus bas. Pourtant, les bicuras étaient montés par là. Tout cela n'avait aucun sens. J'ai regagné ma hutte en secouant la tête. J'écris ces mots à la lueur du disque de mon Père Soc. J'essaie de penser aux précautions que je pourrais prendre pour être sûr de voir la lueur de l'aube. Mais je n'en trouve aucune. 103e jour. Plus j'apprends, moins je comprends. J'ai transféré la plus grande partie de mon matériel dans la hutte vide qu'ils m'ont laissée dans le village. J'ai pris quelques photos, enregistré des plaquettes audio et vidéo, mis en image toute une prise au lot du village et de ses habitants. Ils semblent totalement indifférents. Je leur projette des images d'eux-mêmes et ils passent à travers elles comme si elles n'existaient pas. Je leur fais entendre leurs paroles enregistrées. Et ils se contentent d'aller s'asseoir dans leur hutte pendant des heures à ne rien faire, muets comme des tombes. Je leur propose de la pacotille, Il l'accepte sans commentaire, vérifie si cela se mange, puis l'abandonne n'importe où. L'herbe est jonchée de perles de plastique, de miroirs, de bouts d'étoffe de toutes les couleurs et de stylos à billes bon marché. J'ai monté mon petit labo médical, mais en pure perte. Les 70 refusent de se laisser examiner. Ils refusent de me laisser prélever des échantillons sanguins, bien que je leur ai affirmé 1000 fois que cela ne fait aucun mal. Ils ne me laissent même pas utiliser sur eux un scanner médical. Bref, ils refusent toute coopération. Ils n'acceptent ni discussion ni explication. Ils me tournent simplement le dos et s'en vont vaquer à leur non-occupation. Après avoir passé une semaine entière parmi eux, je suis toujours parfaitement incapable de faire la différence entre les hommes et les femmes. Leur visage me rappelle ces trompe-l'œil qui changent de forme au moment même où on les regarde. Quelquefois, le visage de Betty me paraît indéniablement féminin, mais 10 secondes plus tard, il est totalement asexué et je lui redonne le nom de Beta. Même les voix sont indéfinissables. Douces et bien modulées, elles pourraient appartenir à l'un ou l'autre sexe. Elles me rappellent ces robots d'hommes mal programmés que l'on rencontre parfois encore sur les mondes arriérés. J'en suis à épier l'épicura dans l'espoir d'en apercevoir un tout nu. Ce n'est certes pas une chose facile à admettre pour un jésuite de 48 années standard. Mais même pour un voyeur professionnel, je ne crois pas que ce serait chose facile. Le tabou sur la nudité semble absolu chez les Bicura. Ils ne quittent jamais leur longue robe durant le jour, ni même durant leur sieste de 2 heures. Ils s'éloignent toujours du village pour faire leurs besoins, et je suis sûr qu'ils relèvent à peine leur robe pour cela. Je n'ai pas l'impression qu'ils se lavent. Cela devrait causer quelques problèmes de nature olfactive, mais il ne se dégage aucune espèce d'odeur de ces primitifs, à l'exception du très léger parfum suave du chalme. « Vous devez bien vous déshabiller quelquefois » ai-je demandé un jour abruptement à Alpha au mépris de toute délicatesse. « Non », m'a-t-il dit avant de s'éloigner pour s'asseoir dans un coin, inoccupé comme toujours et habillé de pied en cap. « Ils n'ont pas de nom. » J'ai trouvé cela invraisemblable au début, mais j'en ai à présent la certitude.
Nous sommes tout ce qui a été et sera jamais, m'a dit le plus petit d'entre eux, qui pourrait être de sexe féminin et que j'appelle Épi. Nous sommes les 70.
J'ai fait quelques recherches dans mon persoc et j'ai reçu confirmation de ce que je soupçonnais déjà. Sur les 16 000 et quelques types recensés de sociétés humaines, aucun ne se signale par l'absence totale de noms individuels. Même parmi les humains des sociétés ruchées de l'usus, chaque individu répond à une catégorie désignée par un code simple. Je leur ai dit comment je m'appelais, et je n'ai eu droit en retour qu'à des regards dépourvus d'expression. «
Père Duré », ai-je répété patiemment. « Je suis le père Paul Duré ».
Le persoc répète fidèlement ces mots, mais il n'essaie même pas de prononcer mon nom. Hormis leur disparition collective chaque jour avant le coucher du soleil et leur sieste de 2 heures au milieu de l'après-midi, ils ont très peu d'activité en tant que groupe. Même la répartition de leur logement semble faite au hasard. Al, par exemple, passe ses heures de sieste tantôt avec Betty, tantôt avec Gam, ou encore avec Zelda ou Pete. Aucune règle ne semble les guider. Tous les 3 jours, ils se rendent tous, au complet, dans la forêt et font main basse sur tout ce qu'ils trouvent de bon à manger. Racines et écorces de chalme, baies, fruits, etc. J'étais sûr qu'ils étaient végétariens, jusqu'au jour où j'ai vu Dell mordre dans une jeune créature arboricole qui semblait morte depuis longtemps. Le petit primate avait dû tomber d'une haute branche. Il semble donc que les 70 ne dédaignent pas à l'occasion un complément carné à leur régime, mais qu'ils soient trop stupides et indolents pour chasser des proies. Chaque fois qu'ils ont soif, les Bicura doivent parcourir environ 300 mètres pour aller boire à une cascade qui se jette dans la faille. Je n'ai vu dans leur hutte aucun objet qui ressemble à un récipient. Je conserve une réserve d'eau personnelle de 40 litres dans des bidons en plastique, mais aucun habitant du village ne s'y est jamais intéressé. Compte tenu de l'estime en chute libre que j'éprouve actuellement pour eux, Je ne suis pas étonné qu'ils aient passé des générations entières dans un village où il n'y a même pas un point d'eau. « Qui a bâti ces maisons ? » ai-je demandé. Ils n'ont pas de mots pour dire village.
« Les 70 »,
me répond Will. Je le distingue aisément des autres grâce à un doigt cassé qui ne s'est pas remis correctement en place. Chacun d'eux, quand on y regarde de près, a quelque chose qui le distingue des autres. Mais je me demande parfois s'il ne serait pas plus facile de faire la différence entre des corneilles. Quand ont-elles été bâties ? Mais je ne me fais pas d'illusions. L'expérience m'a appris qu'ils ne répondaient jamais à une question commençant par « quand ». Celle-ci ne fait pas exception à la règle. Chaque soir, ils descendent dans la faille en s'aidant des lianes. J'ai essayé de les suivre le troisième soir, mais ils se sont mis à six pour me faire rebrousser chemin jusqu'à ma hutte, d'une manière en même temps douce et ferme. C'était la première fois qu'ils faisaient preuve, à mon égard, d'un comportement que l'on pourrait qualifier d'agressif, et cela m'a rempli d'une certaine appréhension. Le lendemain, lorsqu'ils se sont mis en route, j'ai sagement regagné ma hutte sans même me retourner. Mais par la suite, quand ils sont revenus, je suis allé discrètement récupérer mon imageur et son trépied dissimulé dans une crevasse de la falaise. Les vues au loup montrent les bicuras en train de descendre le long de la falaise, agrippés aux lianes, aussi agilement que les petites créatures arboricoles qui peuplent les forêts de Chalm et de Vort. Mais au bout d'un moment, ils disparaissent sous le surplomb. « Que faites-vous chaque soir quand vous descendez dans la faille ? » ai-je demandé à Hal. Il m'a considéré quelques instants avec ce sourire de Bouddha inspiré que j'en suis arrivé à haïr.
« Tu appartiens au cruciforme », m'a-t-il dit comme si cela répondait à tout.
« Est-ce que vous descendez pour pratiquer un culte ?»
Pas de réponse.
« Je suis comme vous le serviteur de la croix », ai-je ajouté, sachant que mon père Soc traduirait « j'appartiens au cruciforme ». Je pense que je n'aurai bientôt plus besoin de cette machine pour traduire, mais nous avions là une conversation trop importante pour que je laisse quoi que ce fût au hasard. « Cela signifie-t-il que je pourrais me joindre à vous lorsque vous descendez dans la faille ?» ai-je demandé. L'espace d'un moment, j'eus l'impression qu'il réfléchissait. Son front se plissa. C'était la première fois que je voyais, sur le visage de l'un des 70, une expression qui ressemblait vraiment à un froncement de sourcils. Puis il me répondit
« Ce n'est pas possible. Tu appartiens au cruciforme, mais tu ne fais pas partie des 70. »
J'eus conscience que la formulation de cette distinction avait dû mobiliser chaque neurone et chaque synapse de son cerveau. « Que feriez-vous si je descendais dans la faille ? » demandai-je alors. Je ne m'attendais pas à une réponse. Les questions spéculatives n'en recevaient généralement guère plus que celles qui étaient axées sur la chronologie. Mais cette fois-ci fut l'exception. Alpha retrouva son sourire de chérubin pour murmurer avec calme
« Si tu essaies de descendre le long de la falaise, nous te maintiendrons dans l'herbe, nous prendrons des cailloux pointus, nous te couperons la gorge et nous attendrons que ton sang cesse de couler et ton cœur de battre. »
Je ne répliquai pas. Je me demandais s'il entendait le martèlement de mon cœur en cet instant. « Au moins, me disais-je, tu n'as plus à t'inquiéter qu'ils te prennent pour un dieu maintenant. » Le silence se prolongea.